Bonjour Aurélien, bonjour Iris, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là.
C'est cool.
Merci à vous.
Alexis, tu veux bien encore enregistrer avec Audacity?
Oui, tout à fait, c'est lancé.
Ah déjà, ouais, on est.
J'enregistre tout, hein,
J'enregistre tout.
même avant le début de la séance.
Bon, de toute façon, on va encore attendre quelques minutes. Il faut qu'il y ait au moins Nicolas.
Oui.
You are now muted.
Il y a aussi Mathieu qui revient, je crois.
Ouais, Mathieu.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Désolé de mon retard.
Non, bah, ça va, on est. C'est des heures.
Il fallait que je neutralise les heures.
Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté d'être discutant pour cette séance.
Ah, peut-être que Nicolas, tu nous entends, mais ton micro marche bien ou pas? Ah non, il déconnecte. J'ai l'impression. Téléphone. Nicolas, est-ce que ton micro marche bien? Ah non, je crois qu'il a un problème avec connexion. J'espère qu'il ne va pas avoir de problème pendant toute la séance. Parce que...
Je suis revenu. Je n'essaye pas de brancher ma caméra parce que je pense que ça fait tout planter.
Ah, ça fait tout planter, c'est ça.
Okay. Bah, je ne sais pas, moi j'ai essayé, ça a tout cafouillé.
T'es sur Firefox ou un truc comme ça?
Ouais.
Ah ouais, d'accord. Non, je me demandais parce que des fois, il y a des. Je sais que Google Chrome, par exemple, ça pose des problèmes, mais à certains moments. Mais... Bah, écoute, si on t'entend, c'est.
On va essayer, mais. Ah, si.
Ah, ouais. Ah bah oui,
très aléatoire. J'ouvre mon micro et puis j'écoute.
Ok. Bah, de toute façon, oui, bon, on va partir. Je vais ouvrir le temps que j'ouvre le séminaire. Alors, attends, je vais essayer de mettre comme un peu rapidement quand même. Voilà. Alors, ok, donc j'ouvre rapidement. Donc là, la séance est enregistrée. Donc, bienvenue à tout le monde. Alexis Delamarre et moi-même, nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver pour cette quatrième séance du séminaire de philosophie de l'année. Et donc, bon, je rappelle que, évidemment, BBB n'accepte pas qu'on soit tous en micro. Donc, c'est vrai que là, ça marche bien quand il y a seulement les intervenants en fait, qui apparaissent et qui parlent. Sinon, je voudrais, donc, avant de commencer les présentations, je voudrais d'emblée préciser que la prochaine séance, elle aura lieu le lundi 29 mars. On recevra Thomas Maurice, qui est doctorant à Bordeaux, et lui, il viendra nous éclairer sur une phénoménologie de l'obscurité. Hein, plus exactement, son titre d'intervention, vous pouvez le retrouver sur le site de l'ERIAC, c'est l'assurance, s'intitule, donc son intervention s'intitule « L'assurance ou le tâtonnement, étude phénoménologique sur le clair et l'obscur ». Donc, ça sera le 9 mars aussi à 18h, et a priori aussi sur BBB. Alors, pour l'heure, donc c'est avec joie qu'on accueille Iris 12 ans ce soir. Iris, elle est doctorante avec un doctorat conjoint avec Paris 1, Panthéon-Sorbonne et l'Université de Venise, Ca Foscari, sous la tutelle Manuela Scribano et Laurent Jaffreau. Et elle travaille donc sur l'expérience et la conscience pré-réflexive chez Hume et Rousseau. Actuellement, elle est aussi à terre à Paris 1. Donc, ce soir, elle va nous partager donc une part de sa réflexion sur le thème de la conscience pré-réflexive, donc au gré d'un dialogue assez prometteur entre Hume et Sartre. Voilà, alors c'était assez succinct, mais avant de lui céder la parole, je voudrais remercier aussi encore une fois chaleureusement Nicolas Rialand d'avoir accepté d'être une nouvelle fois le discutant pour le séminaire de philosophie de Rouen. D'ailleurs, la dernière fois, en octobre, lors de la séance de Louis Rouillet, il n'avait pas seulement été discutant, mais aussi animateur de la séance. Voilà, donc Alexis Delamarre et moi-même, on leur remercie à nouveau. Certains le savent donc déjà, mais j'informe quand même les autres, que Nicolas Rialand est maître de conférence à Rouen, l'Université de Rouen. C'est un spécialiste d'esthétique et de philosophie de l'art, et de la période moderne, d'une certaine façon. Récemment, il a participé aussi à une anthologie de textes sur la réception de la perfectibilité dans l'espace germanophone au XVIIIe siècle, et cette anthologie devrait paraître dans l'année. Voici donc, merci encore pour ta présence parmi nous, Nicolas. Je crois que j'ai tout dit. Donc, Iris, je te laisse la parole.
Alors, bonjour à tous. Merci Aurélien et merci Alexis de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Et merci à Nicolas Rialand également de bien vouloir répondre. Donc, comme l'a dit Aurélien, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de la conscience pré-réflexive en mettant en rapport, en fait, sur ce thème Sartre et Hume. Et bien sûr, avant de commencer mon exposé, je voudrais quand même préciser que je ne suis pas du tout spécialiste de Sartre et que donc je ne prétends pas évidemment commenter Sartre pour lui-même. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un travail qui est en cours et que je suis en train de développer pour ma thèse. Et en fait, j'ai voulu utiliser la critique que Sartre fait de Hume dans l'imaginaire comme en fait un espèce de cheminement pour entrer dans la science humienne de la nature humaine. Et donc, c'est de ce cheminement, hein, qui est en quelque sorte un instrument pour rentrer dans Hume, dont je vais parler aujourd'hui. Comme l'a dit également Aurélien, l'intitulé de ma thèse est « Expérience et conscience pré-réflexive chez Hume et chez Rousseau ». Et on peut remarquer que le terme de pré-réflexif n'apparaît pas chez ces deux auteurs, mais chez l'un et chez l'autre, beaucoup de choses se passent avant la réflexion. Et je soupçonne en fait qu'au-delà de la commodité linguistique, la théorie sartrienne du pré-réflexif est en fait une lentille susceptible de faire apparaître certains éléments d'importance. J'aurais voulu au départ de Hume et de Rousseau, mais finalement, j'ai pas réussi à traiter des deux. Et je précise juste que mettre en rapport Sartre avec Rousseau est aussi légitime, puisque Sartre fait une critique de Rousseau sur ces questions-là. Alors, en fait, on trouve, à ma connaissance, la première occurrence du concept de pré-réflexif chez Sartre. Édite pré-réflexive pour Sartre, une certaine conscience qui est non positionnelle de soi. La conscience n'est pas conçue par Sartre comme une substance, et Sartre nous dit dans l'introduction de l'être néant que la conscience n'a rien de substantiel, c'est une pure apparence, en ce sens qu'elle n'existe que dans la mesure où elle s'apparaît. Et il ajoute que la conscience est un vide total puisque le monde entier est en dehors d'elle. Comme Sartre l'indique dès le début de l'imaginaire, cette fois, il y a une pluralité de structures psychiques qui doivent être appréhendées comme autant de types de conscience. La spécificité d'une conscience est établie en partie par ce qu'elle vise, un objet du monde, une conscience, et en ce qui concerne les objets du monde, par la manière dont elle les appréhende. Toute conscience est conscience de quelque chose. Pour Sartre, l'objet visé par la conscience ne peut que lui être transcendant. Par exemple, l'objet de la conscience d'image est un objet extérieur. Celui de la conscience réflexive, c'est la conscience préréflexive. Et je précise que la conscience perceptive ou la conscience imageante, hein, pour Sartre, sont préréflexives. Dans ces deux cas, en fait, ce n'est pas de façon immanente que la conscience se rapporte à ce qu'elle prend pour objet. Cette affirmation, hein, toute conscience est conscience de quelque chose, qui est réitérée par Sartre dans la plupart de ses ouvrages, est au principe de la critique qu'il élabore dans l'imaginaire à l'encontre de Hume. Ce dernier, niant la transcendance de l'objet extérieur pour la conscience, serait incapable de saisir la spécificité du concept d'image. Et Hume, en fait, en faisant de l'image la copie d'une impression, place l'objet de l'image dans la conscience. Faire d'un contenu de pensée et non pas de l'objet extérieur l'objet de la conscience imageante, c'est pour Sartre s'interdire de comprendre la spécificité de la conscience d'image vis-à-vis de la conscience perceptive. En effet, dès lors que l'une et l'autre sont conçues comme appréhendant un même objet extérieur de façon différente, l'illusion d'un rapport de dérivation, au sens fort, entre la perception et l'image disparaît. Poser la transcendance de l'objet de la conscience permet de saisir la spécificité de chaque acte de conscience et ainsi de renoncer à l'idée d'une substance pensante qui serait le réceptacle de contenus mentaux. Sartre entend donc saisir avec certitude l'essence de l'image grâce à la réflexion phénoménologique qui suppose une transparence de la conscience. C'est ce qui requiert de laisser l'objet du monde dans le monde et de le considérer comme simplement visé par la conscience. Réciproquement, les consciences pré-réflexives ou irréfléchies, qui sont pourvues d'autonomie, peuvent être saisies par une conscience réflexive qui les transcende et qui est en mesure d'en saisir l'essence de façon certaine. L'enjeu de mon propos, en fait, serait de montrer qu'il est possible, avec Hume, de penser une conscience pré-réflexive qui ne se rapporte pas à un objet transcendant, et qui ne peut pas être saisie par une conscience qui lui serait transcendante. Et en fait, c'est le statut très particulier que Hume octroie à l'impression qui lui permet finalement de faire l'économie d'un retour sur un soi qui n'est pour lui qu'une fiction de l'imagination. Donc voilà pour la mise en place de mon propos. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Dès les premières pages de l'imaginaire, Sartre fait de Hume l'exemple par excellence des philosophes pris dans ce qu'il nomme l'illusion d'immanence. Cette illusion d'immanence, elle se donnerait à voir dans la conception humienne de l'idée, en tant que Hume fait de l'idée un synonyme de l'image. L'illusion d'immanence serait le résultat de l'articulation des deux thèses suivantes. L'image est dans la conscience, hein, au sens fort, et l'objet de l'image est dans l'image. Cela conduit, selon Sartre, à nier la transcendance de l'objet de la conscience, ici celle de l'objet du monde, la conscience serait le réceptacle, le simulacre d'objets qui se substituerait aux objets eux-mêmes. Le rapport à l'objet serait ainsi médiatisé par un contenu de pensée qui deviendrait l'objet de la conscience. Cette position conduit, selon Sartre, à une confusion entre la représentation mentale de l'objet et l'objet lui-même. L'objet de la conscience n'est plus de ce point de vue l'objet extérieur. L'objet de la conscience, c'est alors l'image mentale en tant qu'elle n'est que le signe de l'objet extérieur. Alors, Sartre se fonde ici sur les propos de Hume, hein, il le cite, et il cite notamment la première section du livre 1 du traité de la nature humaine. Au début de cette première section du livre 1 du traité, Hume distingue en effet entre deux types de perceptions, hein, les impressions et les idées, et il ajoute... suivant la traduction dont se sert Sartre, donc je cite Hume dans la traduction dont se sert Sartre, les perceptions qui pénètrent avec le plus de force et de violence, nous pouvons les nommer impressions. Par idée, j'entends les faibles images des premières dans la pensée et le raisonnement. Fin de citation. Ce qui, selon Sartre, est sous-entendu ici, et ce qui importe, c'est que les perceptions pénétreraient dans la pensée ou la conscience comme dans un lieu. Or, la traduction dont se sert Sartre, ainsi que l'extrait du paragraphe qu'il choisit de citer, le conduit, à mon sens, à extrapoler les propos de Hume. Le philosophe écossais qualifie en effet le rapport entre les impressions et les idées de la façon suivante. Donc, je lis le texte en anglais. The difference between these, donc la différence entre ces deux perceptions, consists in the degrees of force and liveliness with which they strike upon the mind and make their way into our thought or consciousness. Those perceptions which enter with most force and violence, we may name impression. Voilà, désolé pour l'accent. Ce qui m'importe, c'est que Hume dit que les perceptions strike upon the mind et make their way into our thought or consciousness. L'enjeu du propos de Hume, en fait, n'est pas l'assignation d'un lieu dans lequel seraient reçues les perceptions. Il affirme dans la phrase qui précède celle qui est citée par Sartre que les perceptions frappent l'esprit et font leur chemin dans la pensée ou dans la conscience de manière différente. Donc il insiste en fait d'une part sur la passivité de l'esprit dans la formation des impressions et des idées. Ces perceptions frappent l'esprit, elles font irruption dans la pensée, elles apparaissent malgré lui. Et il y a d'ailleurs en cela un véritable désaccord entre Hume et Sartre, puisque Sartre considère que la conscience imageante, la différence de la conscience perceptive, produit l'image. D'autre part, Hume insiste sur la différence de force et de vivacité entre l'impression et l'idée. Force et vivacité qui déterminent la manière dont elles frappent l'esprit et font leur chemin dans notre pensée ou dans notre conscience. Il y a donc un rapport de dérivation entre l'impression et l'idée. Néanmoins, si c'est une idée qui apparaît à l'esprit, elle n'aura pas le même devenir que l'impression. Ces deux types de perceptions ne se priant pas le même chemin dans la pensée. L'idée peut, par exemple, donner lieu à de nouvelles impressions. Donc, en fait, là où Sartre voit le signe d'une conception de la conscience comme réceptacle d'image mentale, il n'est question que de distinguer deux types de perceptions par leur différence de force et d'intensité. si j'affirme avec certitude hein, qu'il n'est pas question pour Hume de placer l'image dans la conscience, hein, au sens fort, c'est que pour lui, comme pour Sartre, en un sens, hein, la conscience n'est pas une entité ou une substance. Et Hume affirme, dans le cadre de sa critique inconnue hein, de l'identité personnelle, je cite Hume, « L'esprit est une sorte de théâtre où des perceptions diverses font successivement leur entrée, passent, repassent, s'esquivent et se mêlent en une variété infinie de positions et de situations. La comparaison du théâtre ne doit pas nous égarer. Ce ne sont que les perceptions successives qui constituent l'esprit et nous n'avons pas la moindre idée du lieu où ces scènes sont représentées. » Donc, l'esprit là, n'est pas pour Hume un lieu. Donc, en fait, à Sartre, qui affirme que l'origine de l'illusion d'immanence, je cite Sartre, doit être cherchée dans notre habitude de penser dans l'espace et en termes d'espace, il nous faut répondre que c'est justement contre l'habitude de penser dans l'espace qui conduit à considérer l'esprit comme un lieu que s'élève la doctrine humienne de la perception. En fait, si Hume affirme que les perceptions entrent dans l'esprit, c'est parce que c'est le langage, et ici aussi bien en anglais qu'en français, qui ne permet pas de faire en fait de la conscience autre chose qu'un réceptacle. Et c'est finalement vraiment juste le langage ici qui est au principe de cette illusion d'immanence. Donc, Hume est en quelque sorte ici fait prisonnier d'une lecture littérale des termes qu'il emploie, alors que ceux-ci ne sont finalement que métaphoriques. Donc voilà pour le premier point, hein, qui était que Sartre reproche à Hume de mettre l'image dans la conscience. Reste le second reproche que Sartre adresse à Hume. L'objet de l'image serait pour Hume dans l'image. Et Sartre cite ici un extrait de la section du traité qui est consacrée aux idées abstraites. Donc je cite Sartre qui cite Hume. Se former l'idée d'un objet et se former une idée, tout simplement c'est la même chose. Le fait de se rapporter à un objet n'étant pour l'idée qu'une dénomination extrinsèque dont elle ne porte en elle-même aucune marque ni aucun caractère. Or, comme il est impossible de se former l'idée d'un objet qui soit doué de quantité et de qualité et qui pourtant ne le soit d'aucun degré précis de l'une ni de l'autre, il s'ensuit qu'il est également impossible de se former une idée qui ne soit limitée et bornée en ces deux points. Fin de citation. Ici, Sartre va se concentrer sur la mention que fait Hume du rapport entre l'idée ou l'image et l'objet. Selon Sartre, il n'est pas vrai que l'objet ne soit pour l'idée qu'une dénomination extrinsèque. Ce n'est pas vrai parce que cela impliquerait en fait que l'image soit le signe de l'objet, c'est-à-dire une représentation mentale qui s'y substituerait. L'objet serait ainsi placé par Hume dans la conscience, serait immanent à la conscience, preuve en est, selon Sartre, que l'image a, pour Hume, les mêmes déterminations que l'objet. La conception humienne de l'image conduirait à laisser de côté l'objet extérieur pour faire de son simulacre l'objet de la conscience. Autrement dit, Sartre fait comme si Hume remplaçait l'objet par une image mentale immanente à la conscience puisque dérivée en fait d'une perception préalable. La perspective de Hume conduirait à confondre l'objet et l'image et à ne pas voir que c'est bien un objet extérieur que la conscience imageante appréhende et non pas un contenu mental issu de la perception qui constituerait sa matière et qu'elle transformerait en image. Dans la mesure où, selon Hume, les idées dérive des impressions, elles sont en effet déterminées de façon quantitative et qualitative. Hume le rappelle dans le paragraphe du traité qui précède celui qui est cité par Sartre, la seule différence entre l'impression et l'idée, c'est la force et la vivacité, puisqu'une impression donc ne peut pas ne pas avoir de détermination, celle-ci se retrouve nécessairement dans l'idée. Je cite Hume, hein, sur ce point, c'est très clair. Puisque les idées proviennent toutes des impressions et n'en sont que des copies et des représentations, tout ce qui est vrai des unes doit être reconnu vrai des autres. Les impressions et les idées ne diffèrent que par leur force et leur vivacité. Une idée est une impression moins vive. Comme une impression forte doit nécessairement avoir une quantité et une qualité déterminées, il faut qu'il en soit de même de sa copie ou représentation. Fin de citation. Je précise juste que Hume cherche à montrer dans cette section du traité, en fait, que les idées abstraites ne sont que des idées particulières associées à un certain terme qui leur donne une signification plus large, et que l'enjeu pour Hume dans ce passage, c'est justement de montrer que les idées abstraites dérivent in fine d'une impression, donc de l'expérience. Hein, puisque Hume, à la suite de Berkeley, s'en prend à la conception rationaliste des idées abstraites. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment dans un cadre très précis que aussi s'inscrit cette citation de Hume. L'idée ou l'image a donc bien un rapport que l'on peut qualifier d'intrinsèque à l'impression. Le rapport de l'image à l'objet extérieur est d'une certaine façon médiatisé par l'impression. Donc Sartre en conclut à juste titre que pour Hume, l'idée de chaise et la chaise en idée donc, hein, sont une seule et même chose. En effet, si l'objet est dans l'image, c'est bien parce que l'impression est la matière de l'idée et pas l'objet lui-même. L'idée ou l'image se rapporte donc bien à un autre fait de conscience et non à l'objet, ce qui conduit Hume à assimiler l'image à l'objet qu'elle représente. L'objet même n'étant alors qu'une dénomination extrinsèque. Et Hume affirme ainsi, à la fin du paragraphe cité par Sartre, l'image présente dans l'esprit n'est que celle d'un objet particulier. Par parenthèse, Hume dit encore dans l'esprit, hein, in the mind, qu'il faut entendre comme à l'esprit. Donc l'image, nous dit Hume, présente dans l'esprit n'est que celle d'un objet particulier, c'est-à-dire que l'image a donc bien les déterminations de l'objet et elle vient se substituer comme l'impression avant elle à l'objet même puisqu'elle récupère les déterminations de l'impression. On perdrait ainsi du point de vue de Sartre la spécificité de l'image, à savoir qu'elle est un certain rapport de la conscience à l'objet en tant que celui-ci est transcendant à cette conscience. En effet, l'image pour Sartre est, je le cite, une certaine façon qu'a l'objet de paraître à la conscience, ou si l'on préfère, une certaine façon qu'a la conscience de se donner à un objet. Fin de citation. Donc, selon Hume, à l'inverse, hein, l'image se constituerait dans l'esprit relativement au contenu, donc aux déterminations que lui fournit l'impression, et Sartre, lui, déréalise en fait, la consistance de l'image, un problème. Sartre déréalise en fait la consistance de l'image au profit de celle de l'objet. L'image n'est qu'une façon qu'a la conscience de viser l'objet extérieur. L'image ne dérive donc pas pour Sartre d'une perception préalable. C'est un rapport direct à l'objet qu'il a défini. Et non pas un rapport à un contenu perceptif qui se constituerait comme son objet. Ce qui se donne donc à lire dans la formule humienne suivant laquelle l'idée dérive d'une impression. Autrement dit, pour Sartre, la conscience imageante ne dérive pas au sens fort de la conscience perceptive. L'image de la chose n'est pas de même nature que la perception de la chose, pour Sartre. Je cite Sartre, toujours dans l'imaginaire. On a souvent procédé comme si l'image était d'abord constituée sur le type de la perception et comme si quelque chose, réducteur, savoir, etc., intervenait ensuite pour la replacer à son rang d'image. L'objet en image serait donc constitué d'abord dans le monde des choses pour être après coup chassé de ce monde. Or, selon Sartre toujours, je le cite à nouveau, si perception et image ne sont pas distinctes par nature, si leurs objets ne se donnent pas à la conscience comme sui generis, il ne nous restera aucun moyen pour distinguer ces deux façons de se donner les objets. Il faut que l'image prise en elle-même renferme dans sa nature intime un élément de distinction radicale. En situation. Cet élément de distinction radicale, c'est selon Sartre un acte positionnel d'absence ou d'inexistence. On peut supposer que pour Sartre, Hume, en affirmant que l'idée est la copie d'une impression, donc elle est plus faible qu'une impression, elle se caractérise comme l'absence de l'impression. Donc on peut supposer que pour Sartre, Hume considérerait en fait qu'un acte positionnel viendrait se surajouter à l'image, viendrait se surajouter peut-être à la perception une fois qu'elle est constituée. Or, selon Sartre, et je le cite encore, ces actes positionnels, lui-même cette remarque est capitale, ne se surajoutent pas à l'image une fois qu'elle est constituée. L'acte positionnel est constitutif de la conscience d'image. Toute autre théorie, en effet, outre qu'elle serait contraire aux données de la réflexion, nous ferait retomber dans l'illusion d'immanence. Donc, selon Sartre, la conscience perceptive pose son objet comme existant et la conscience imageante le pose comme absent ou inexistant. L'acte positionnel de la conscience perceptive n'est donc pas le même que celui de la conscience imageante. Et c'est bien dans le rapport que ces deux consciences entretiennent en fait avec l'objet transcendant que se joue la différence entre la perception et l'image. C'est le rapport qu'elles entretiennent avec un même objet qui fait surgir leur différence et non pas la transformation par la conscience d'une sensation en image. Les consciences ne sont pas, de ce point de vue, pour Sartre, réductibles les unes aux autres. La conscience d'image est pour Sartre sui generis. Donc, comment l'image se caractérise-t-elle pour Sartre? Bon, il y a beaucoup de. Sartre, dans l'imaginaire, en fait, caractérise l'image tout du long, mais j'extrais juste une caractéristique qui intéresse par rapport à Hume. L'image est, selon Sartre, plus pauvre du point de vue de ses déterminations que la perception. Donc, pour Sartre, l'image est plus pauvre du point de vue de ses déterminations que la perception. Et c'est d'ailleurs une difficulté lorsqu'on est pris dans la perspective d'un rapport de dérivation, donc lorsqu'on est, comme le dit Sartre, sujet à l'illusion d'immanence, en fait, il y a une difficulté qui est de saisir en fait, que la pauvreté de l'image, selon Sartre, elle fait sens relativement à la richesse de la perception, mais en même temps, la perception et l'image émane de deux consciences radicalement distinctes. La seconde ne fait pas fond sur la première. Donc en fait, Sartre compare l'image et la perception, mais il ne les fait pas dériver l'une de l'autre, même si l'une est plus riche et l'autre plus pauvre. Selon Sartre, dans l'image, il y a justement une espèce de pauvreté essentielle, c'est-à-dire en fait une pauvreté de rapport qui la distingue essentiellement de la perception. Dans la perception, les objets débordent la conscience du fait de l'infinité des rapports qu'ils entretiennent avec d'autres objets, alors que l'image livre d'un seul coup de galet, donc l'objet de l'image, pour Sartre, n'est jamais rien de plus que la conscience qu'on en a. Donc, On n'ajoute pas ici un acte positionnel à un contenu mental déjà présent dans la conscience. L'image n'est ni l'objet, ni une perception transformée. Il faut, à mon sens, hein, s'arrêter un instant sur le sens que donne Sartre à la perception, hein, celui d'un débordement, et qui est en fait très important pour mon propos. La perception, pour Sartre, elle n'est pas de rapport, de relation, hein, qui serait ajoutée par la conscience à des sensations pures. Hein. C'est là vraiment une distinction, quand même, peut-être la distinction la plus fondamentale entre Sartre et Hume. La richesse de la perception, pour Sartre, hein, elle s'explique par la multiplicité des rapports dans lesquels s'insère la chose et qu'elle saisit d'emblée. Ces rapports sont constitués comme des intentions vides qui résultent de la visée de l'objet transformé. Et pour Sartre, donc, ces intentions vides peuvent être remplies par la conscience imageante. Je donne l'exemple de Sartre. Je peux me représenter la tenture murale derrière l'armoire alors que je ne l'aperçois pas. Mais dans ce cas-là, il n'est plus question d'acte perceptif, mais d'un acte sui generis de la conscience, puisque Sartre, la perception est l'amorce d'une infinité d'images, mais ces images ne peuvent se constituer qu'au prix de l'anéantissement, dit Sartre, des consciences perceptives. Donc si Sartre dit que la perception peut amorcer l'image, néanmoins, hein, il y a bien une rupture entre la conscience perceptive et la conscience imageante. La critique en fait, que fait Sartre de la psychologie dans la suite de l'imaginaire, hein, me semble être complémentaire en fait, du problème de l'acte positionnel. Parce qu'en fait, dans la suite de l'imaginaire, Sartre affirme qu'il faut renoncer à la sensation pure qui est pour lui un être de raison. Dans ce passage de l'imaginaire, Sartre ne critique pas Hume, hein, il critique les psychologues, mais l'idée d'une sensation pure, on la retrouve chez Hume, donc la critique de Sartre pourrait, à mon sens, englober Hume. C'est important parce que la perception, ça montre que la perception est comprise d'emblée par Sartre comme une prise en vue de rapports qui sont suscités par la présence d'un objet. Donc la perception ne se construit pas à partir de sensations pures, qui seraient pour Hume en fait l'impression, hein, qu'on mettrait en relation les unes avec les autres en leur ajoutant des liaisons. A fortiori, l'image n'est pas une perception, c'est pas une mise en rapport d'idées provenant de la sensation à laquelle on noterait l'existence. Pour ça, la perception est bien une structure mentale qui se distingue de celle de la conscience imageante par la manière dont elle appréhende l'objet extérieur. J'en arrive à la fin de mon propos. Ce que j'aurais voulu développer davantage, mais que je vais développer par la suite. Je pense qu'il faut en fait éclaircir une ambiguïté. Ce qui chez Sartre en fait est considéré comme perception renvoie chez Hume aussi bien à la perception qu'à l'image, en tant que l'image n'est pas pourvue d'existence. Donc déjà, il y a aussi un problème de... Non seulement les théories sont différentes, mais il y a aussi un problème de vocabulaire. Et même si Sartre considère que l'idée chez Hume, c'est ce qu'il appelle image, c'est quand même assez difficile de voir ce à quoi correspond chaque terme. Donc, ce qui, chez Sartre, est considéré comme perception, renvoie chez Hume aussi bien à la perception l'image, en tant qu'elle n'est pas pourvue d'existence. Sartre distingue deux consciences, la conscience perceptive et la conscience d'image, qui, chez Hume, se mêlent l'une à l'autre parce que la pensée dérive de l'impression, elle trouve son origine dans l'impression. la conscience est pour Hume, en fait, un flux de perceptions diverses, hein, comme il l'indique dans la citation que j'ai donnée au début. La conscience est un flux de perceptions diverses dont l'origine n'est pas l'objet extérieur, mais l'impression. Si nos idées se réduisent à des impressions, si les pensées qui nous viennent à l'esprit sont décomposables, hein, pour Hume, en des éléments plus simples, il ne faut pas perdre de vue le fait que pour Hume, les impressions ne sont pas de même nature que nos idées. L'impression n'est pas une représentation de l'objet extérieur, elle n'est pas pour Hume une médiation. Alors, cela, c'est lié à une position, une question de méthode. Hein. Pour Hume, on ne peut pas connaître les causes des faits mentaux. C'est pour ça que la question du rapport entre l'impression et l'objet est écartée. Mais ce qui me semble être important, c'est que l'impression n'est pas une représentation mentale. Les impressions doivent être conçues en fait comme des atomes perceptifs à partir desquels la pensée va pouvoir se former. Donc l'impression, c'est vraiment l'élément originaire de la pensée, mais qui n'est pas de même nature que la pensée, puisque la pensée, elle est envahie de relations. Dans l'impression, il n'y a pas de relation. À l'origine de la pensée, en fait, il n'y a pas de relation. Certes, l'impression est la matière de nos connaissances, mais elle est surtout une manière. Et c'est là le point auquel je voudrais en venir et que malheureusement, j'ai pas pu assez développer, c'est que je pense que la critique Sartre en fait sous-estime ce qu'est la manière avec laquelle se donne l'impression. En fait, il me semble que Sartre a seulement une conception quantitative de l'impression, qu'il pense l'intensité de l'impression comme si c'était une intensité d'ordre quantitative de différents éléments. Mais il me semble que ce qui est le plus essentiel pour Hume, c'est en fait l'approche qualitative qu'il a de l'impression. En fait, je le dis parce que par exemple, pour Hume, l'image mentale n'est pas une perception à laquelle on noterait l'existence. Il est très clair sur ce point, hein, je le cite pour l'entonnoir du traité, Hume dit « l'idée d'existence n'est pas une idée distincte que nous unissons à celle de l'objet est susceptible de former grâce à cette union une idée composée. » Donc, quand on considère une image, pour Hume, on n'enlève pas une idée. Enfin, même si la perception, même si les images sont composées de différentes idées, l'existence, par exemple, n'est pas une détermination qui résiderait dans une idée. L'existence, pour Hume, elle est en fait donnée justement par cette vivacité qui, à mon sens, est sous-estimée par Sartre. L'impression, en fait, c'est aussi ce qui est difficile, c'est que c'est vraiment dur de penser ce qu'est l'impression pour Hume, qui justement est l'impression qui échappe à la pensée. L'impression en tant qu'expérience pure, c'est en fait l'existence, c'est la réalité. Donc, la pensée, en fait, elle naît. La pensée, oui, elle est en fait à distance de l'existence, donc de l'impression, puisqu'elle naît en l'absence d'impression. Et c'est justement par cette distance qu'il y a entre la pensée et l'impression que peut surgir l'erreur. Mais ça, Hume le pense en termes de variation d'intensité. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que pour Hume, justement, la vérité, ce qui va faire la véracité d'une idée, c'est elle réside en fait dans une manière de sentir. Et en fait, c'est dans la croyance que Hume distingue de la fiction. Donc ça, Sartre n'en fait pas mention, mais Hume distingue en fait la croyance qui nous permet d'avoir des certitudes de la fiction. Et justement, il les distingue par leur différence de vivacité. Et pour Hume, donc, c'est par la croyance que nous accédons à la certitude, justement, en l'absence de l'impression. Puisque, je rappelle que la croyance pour Hume, c'est une idée vive associée à une impression présente, et que, donc, c'est une idée, hein, elle n'a pas l'évidence de l'impression, mais elle est avivée. Par quoi elle est avivée? En fait, elle est avivée par l'expérience passée. Et donc, finalement, pour Hume, c'est un certain feeling qui est gage de certitude. Donc, ce qui permet d'aviver les idées, et du coup de se rapprocher de la vérité, finalement, c'est l'expérience passée. Donc, juste quelques mots pour conclure. Il n'est pas question pour Hume de connaître des essences, c'est pour lui une impossibilité. Mais ce que je trouve intéressant, et que, encore une fois, je voudrais développer, être en mesure de développer davantage, c'est qu'il montre qu'il n'est nullement besoin de poser la transcendance d'un objet extérieur à la conscience ou la transcendance d'une conscience vis-à-vis d'une autre pour expliquer la nature humaine. En fait, ce que Sartre désigne comme illusion d'immanence chez Hume, c'est, il me semble, la manière qu'a Hume de préserver en fait l'opacité de la nature humaine pour le philosophe qui la prend pour objet. Et surtout, parce qu'on pourrait se dire, oui, Hume est sceptique et du coup, il met en évidence une opacité, mais surtout, ce que je trouve très intéressant chez Hume, c'est qu'il veut rendre compte positivement de cette opacité. Donc, il n'y a pas du tout de transparence de la conscience. Il y a vraiment cette opacité qui est mise en évidence par cette science de la nature humaine. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que finalement, les perceptions, elles sont bien pour Hume immanentes à la conscience, hein, on n'a pas de rapport, on ne vise pas un objet, mais c'est justement c'est la conception qu'il a de l'impression qui lui permet de faire l'économie d'un moi transcendant, qui fonderait l'évidence grâce à une réflexion souveraine. Donc en fait, pour Hume, la pensée, c'est quelque chose qui surgit de façon contingente, qui n'est pas fondée et qui doit toujours en fait se référer, être référé à un sentir pour accéder à la vérité. Donc c'est ce qui permet à Hume en fait de mettre en évidence la manière dont se construit l'impression. Hein. C'est ce qui va permettre à Hume de mettre en évidence la manière dont se construit notre rapport à l'extérieur et à nous-mêmes, et donc l'expérience finalement c'est le critère pour lui à partir duquel des certitudes sur nos actes mentaux peuvent être établies. Donc on est dans deux perspectives qui sont très très opposées, mais ce que je trouve aussi intéressant, je voudrais ajouter comme dernier mot, c'est que Sartre reproche à Hume donc, cette immanence, mais qui est fondé hein, bien sûr, mais ne voit pas que pour Hume l'image c'est bien une certaine façon d'appréhender un objet et que du coup c'est vraiment la façon, la manière qui chez Hume a une importance capitale. Voilà.
Merci merci Iris pour ce bel exposé. Très fin et assez et très intéressant aussi sur la reprise critique de la critique de Sartre justement. Je ne commente pas tout de suite. Je laisse la parole tout de suite à Nicolas Rialan.
Oui, ben je dirais comme Aurélien. Merci beaucoup pour cet exposé qui est riche et à la fois. Oui, très, très fin, parce que ça construit des oppositions qui sont pas non plus des oppositions radicales. Et je trouve très intéressant la manière de montrer que peut-être que le problème de Sartre et Hume, c'est qu'il veut peut-être dire la même chose, mais il n'utilise pas les mêmes mots pour le dire. Et donc finalement, c'est comme s'il y avait un malentendu sur la manière de poser les choses. Donc c'est vraiment stimulant. Alors, bon, je ne suis pas spécialiste du tout de ça, mais ce que je me demandais, si c'était possible de revenir ou de développer, ce que vous disiez à propos de Hume, sur le fait que l'impression constituait des accès vifs, à partir de quoi la pensée se forme. Et est-ce que, au fond, cette position yumienne, elle n'est pas moins naïve que la position sartrienne qui pose une forme d'étanchéité entre la conscience perceptive et la conscience imagente. Alors on voit bien aussi pourquoi il faut qu'il s'entraîne ensuite au psychologue, parce que en fait c'est très compliqué de penser une étanchéité totale entre ces deux consciences d'un point de vue cognitif. Il y a de l'imagination dans la vision, et pour bien voir, il y a de l'imagination aussi.
J'entends plus. Ouais.
Nicolas, faut peut-être mieux couper la vidéo parce qu'on t'entend mal. Il y a des moments où ça.
Ok. Donc je réponds juste. En quel sens exactement vous voulez dire que la perception et l'impression livre des atomes perceptifs? Ouais, c'est juste possible de préciser, développer ce point-là.
Oui, oui. Merci. Merci. Alors, en fait, moi, de mon point de vue, je pense que Hume... Je pense que la théorie humienne de l'impression pose un certain nombre de problèmes, quand même. D'autre part, je pense que Sartre touche juste quand il dit que la perception est toujours quelque chose qui est déjà structuré. Et donc, de ce point de vue, je considère que... Je pense qu'il y a quelque chose de très fort dans l'idée de Sartre suivant laquelle, en fait, il n'existe pas de sensation pure et cette structuration d'emblée présente, en fait, de la perception. Chez Hume, il me semble que malgré sa conception de la perception, qui est atomiste, du coup, il engendre justement ces relations, il arrive à engendrer les relations qui se donnent dans la perception, mais qui pour lui sont des relations de l'imagination, etc. La difficulté de la conception hume-ienne de l'impression, il me semble que c'est le fait que ce soit justement un atome perceptif et que donc l'impression n'est pas de même nature que en fait la perception sensible, puisque la perception sensible est déjà en fait envahie de relations, et donc Hume, avec l'impression, cherche à remonter en deçà de la perception sensible, en deçà de tout, même de l'affectivité. C'est vraiment l'élément originaire de la perception. Et du coup, en fait, si l'impression est bien immanente à la conscience en un sens, néanmoins, elle est extérieure par rapport à la pensée, en fait. Et c'est ça qui est vraiment difficile à exprimer. C'est à la fois cette identité de nature, cette continuité, en fait, qui est à la fois une continuité entre l'impression et l'idée, et en même temps, l'impression n'est pas du même ordre que la pensée, elle est en deçà de la pensée, et elle est justement ce qui va permettre elle est l'origine de la pensée, mais du coup, comme elle est son origine, elle n'est pas le fondement, en fait, de la pensée. Donc, il y a quelque chose... au début de la perception, pour Hume, il y a quelque chose qui est à la fois différent et semblable à la pensée, c'est assez particulier, mais qui, du coup, prend la place de l'objet extérieur.
D'accord. Mais est-ce que, du coup, ça aurait du sens de dire que peut-être que ce qui oppose Hume et Sartre, que chez nous, on a une sorte de paradigme mécaniste, Alors que chez Sartre, on aurait une conception un peu organique de la conscience. Ou est-ce que
Mais il y a aussi l'idée qui n'est pas. Il y a une conception mécanique de la conscience, mais ça me fait penser que du coup, il y a aussi l'idée d'une grande passivité, en fait, chez Jung. Alors que chez Sartre, à chaque fois, il me semble que la conscience peut. En fait, que par la réflexion, on peut ressaisir, enfin, que la conscience produit, qu'elle porte sur un objet extérieur ou sur elle-même. Et en fait, ce que veut montrer Jung, c'est la passivité qu'il y a dans l'esprit. Et du coup, j'en ai pas parlé, mais la réflexion pour Jung, c'est pas du tout. C'est la conception qu'il y a Jung de la réflexion, elle est totalement empirique. Et en fait, c'est un retour. Qui est totalement immanent en fait sur du pré-réflexif. Il n'est pas du tout le.
Un effet des idées.
Ouais.
C'est un effet des impressions.
Un effet
c'est pas du tout la conscience puissante.
Exactement. Exactement. Donc il y a vraiment cette idée de passivité et c'est pour ça que je parlais du fait qu'il met en évidence l'opacité de la nature. C'est qui montre qu'on n'a pas le contrôle justement, que c'est des tendances de la nature humaine qui nous conduisent à avoir telle ou telle perception, et en même temps que la réflexion est comme une espèce d'autorégulation finalement de nos perceptions par l'expérience passée. Et donc du coup finalement quand on atteint, on peut réfléchir, enfin la réflexion elle apporte. Elle est vraiment fondée sur cette expérience. C'est vraiment un effet du pré-réflexif.
D'accord. Alors j'aurais une question, mais je ne veux pas monopoliser la parole non plus. Mais juste sur les enjeux de votre travail, vous dites, parce que c'est étonnant d'aller vous commencez par dire, je suis pas spécialiste de ça. Bon, quand même. Hein. Mais du coup, quel est le sens d'aller chercher ça? C'est-à-dire que qu'est-ce qui vous intéresse dans votre travail? C'est de mettre en évidence une certaine dimension chez Jung, par exemple cette dimension d'analyse de la passivité qui serait méconnue par les commentateurs, et donc d'aller chercher le théoricien de l'activité, montrer à quel point il s'y oppose et à quel point la lecture, au fond, de l'un par l'autre est un malentendu. Méthodologiquement, comment vous articulez ou comment vous justifiez ce recours à ça?
Alors, le recours à Sartre, il se justifie par l'emploi du terme de mon sujet de thèse qui est pré-réflexif, parce que quand j'ai trouvé ce sujet de thèse, c'était en fait en pensant à Sartre. Donc, c'est vraiment, comme je le disais au début, un rapprochement d'abord linguistique. Après, moi, mon travail, il est vraiment consacré à Hume et à Rousseau. Hein, donc, après, il n'est pas question de Sartre dans ma thèse, mais je pense que c'est aussi intéressant, parce que moi, ce que je voudrais montrer dans mon travail, c'est justement que des philosophes empiristes, comme Hume et Rousseau, ont une conception très particulière de la réflexion, et il y a toujours du sens à s'y rapporter aujourd'hui, en fait, malgré ce qu'a fait Kant, malgré la phénoménologie. Et donc, du coup, j'ai trouvé que c'était aussi intéressant de voir en détail, en fait, ce que disait Sartre de ça. Il parle aussi de Rousseau, d'ailleurs, pour justement, par contraste aussi, ça me révèle des aspects de Jung ou de Rousseau, j'espère, qui n'apparaissent pas quand on le lit hors contexte, en fait, et que on reste dans le cadre du XVIIIe siècle. Donc c'est plus pour une mise en perspective et faire sortir des éléments par contraste, en fait, qui montrent aussi la spécificité de leur conception du pré-réflexif, qui est, enfin, pour moi, de mon point de vue, est absolument passionnant.
D'accord. Mais donc du coup, le pré-réflexif chez Hume. Ça désigne l'impression.
Ça désigne l'impression et après ça peut désigner au sens strict, ça serait l'impression. Mais après au sens large, ça peut désigner tout ce qui se passe en fait avant que la réflexion intervienne justement comme autorégulation par l'expérience. Donc en fait, justement dans ma thèse, je varie sur le sens du pré-réflexif, à la fois vraiment l'originaire, voilà, l'impression ou les sensations affectives par exemple chez Rousseau, ou les sensations telles qu'elles sont dans les rêveries du preneur solitaire, et en même temps une conception aussi plus large du pré-réflexif.
D'accord, super. Et alors juste par curiosité, comment s'articulent les deux figures de Hume et Rousseau dans cet ensemble
alors,
de réflexion sur la pré-réflexion?
Ce qui justifie en fait le rapprochement entre Hume et Rousseau, c'est pas du tout à la base un échange théorique en fait entre les deux auteurs, qui ne sont pas à ma connaissance échangés théoriquement, mais c'est une dispute connue hein, qui a eu lieu entre Hume et Rousseau, donc ils étaient très amis, il y a eu un drame, et donc entretenu une correspondance en fait sur cet incident, et qui pour moi est en fait très intéressant justement parce que c'est un autre sens du pré-réflexif, encore un sens de la vie par distinction avec la théorie, et du coup c'est aussi intéressant de voir des comportements affectifs. Enfin, leur comportement affectif dans leurs échanges, et les mettre en rapport avec leur théorie des passions, notamment, etc. Donc, le rapprochement entre Hume et Rousseau, il est lié à un élément, en fait, historique et personnel entre les deux auteurs, qui permet ensuite de mettre en relation leurs pensées, puisque du coup, ils sont strictement contemporains, et c'est deux manières aussi très différentes d'appréhender la perception, la réflexion dans la même période, avec aussi des points communs. Enfin, voilà, j'essaie de traiter de tout ça.
D'accord, ok. Peut-être que la salle virtuelle
peut vous poser des questions. Merci pour les questions.
Mais non, merci à vous, surtout.
Oui, peut-être que, je ne sais pas si Alexis a une question ou d'autres personnes dans les participants.
Je veux bien prendre la parole. Merci beaucoup Iris pour cette exposé très riche et très instructif. C'est pas vraiment une question, mais c'est simplement pour souligner à quel point le rapprochement entre Hume et Sartre, et surtout sur cette question d'imagination, est pour moi vraiment très bienvenu. Je pense que ça peut être utile de rappeler pour tous les étudiants qui nous écoutent que cette question de l'immanence de l'image, elle est vraiment au cœur de la naissance de la phénoménologie avec Husserl, qui notamment dans sa cinquième recherche logique va justement critiquer ce qu'il appelle les théories de l'image, qui replacent l'objet justement dans la conscience. Et c'est cette critique-là qui est fondatrice pour sa propre notion de l'intentionnalité, qui sera le concept fondamental de toute son œuvre et qui est le concept clé de sa phénoménologie. Donc cette question de l'imagination, elle n'est pas du tout secondaire dans la naissance de la phénoménologie, elle est au contraire centrale, et le statut de l'image, il est vraiment très important pour comprendre la naissance de la phénoménologie et l'œuvre de Husserl, et bien sûr de Sartre, qui se réfère à Husserl très régulièrement dans ses écrits sur l'imaginaire. Alors après, j'ai peut-être une question plus sur le fond sur l'imagination. C'est une question qui m'est venue aussi dans mes lectures sur ces questions-là de Sartre et d'autres phénoménologues. C'est au fond, est-ce que l'imagination peut se définir à partir de son type de positionnalité? Ou est-ce qu'on peut la définir à partir de la manière dont les contenus qu'elle possède sont organisés ou sont présentés? Parce qu'en fait, on est un peu embêté, c'est-à-dire que d'un côté, on a envie de dire par exemple que dans le rêve, on a affaire à des expériences imaginaires, parce que l'objet n'est pas là et qu'il ne s'agit pas d'une perception. En même temps, dans le rêve, il y a bien à la fois la positionnalité et en même temps des contenus qui nous semblent extrêmement vivaces, si on prend ce critère de la vivacité, par exemple, comme critère interne. Donc, la question que j'aurais, c'est est-ce qu'on peut trouver un critère qui définisse l'image par rapport au perçu, qui permette de dire que le rêve, c'est bien de l'imagination, ou est-ce qu'on est obligé d'en rester à cette vision un peu pour moi, un peu naïve, qui est celle de Husserl et aussi de Sartre, si j'ai bien saisi son propos, c'est que ça serait vraiment une modalité de la représentation, l'imagination, qui serait sui generis, comme vous l'avez bien dit, et qui aurait donc qui serait irréductible en fait. Il y en a un mode imaginatif de rapport à l'objet. Voilà, c'est un peu ma question. Je ne sais pas si elle est suffisamment claire.
Non, c'est une très bonne question. C'est difficile. Hein. Je pense que, enfin, en tout cas pour Hume, la différence en fait entre ce qui est imaginaire et ce qui est senti, enfin, ce qui est vrai, ce qui est réel, elle est vraiment sentie. Il est persuadé de ça et il dit que de toute façon, n'importe qui est capable de faire la différence entre une sensation, une vraie sensation, je veux dire, et une pensée. Donc, pour lui, la vivacité, ce qui est contestable, hein, parce qu'on peut se demander à quel degré de vivacité une idée, à quel degré de vivacité une impression n'est plus une idée, etc. Enfin, ça, il le précise pas du tout. Donc, la vivacité pose aussi un problème. Mais lui, là, il renvoie ça à une évidence du sens commun, en fait, de cette distinction entre sentir et penser, que tout le monde peut faire cette différence. Après, pour ce qui est de Sartre, de la phénoménologie, franchement, j'ai pas d'avis, moi, sur finalement ce que c'est que cette imaginaire, sur ce que c'est que cette imagination. C'est vrai que pour Hume, l'imagination, elle est à la fois ce qui permet, ce qui fonde la croyance et en même temps ce qui permet d'avoir des fictions. Il y a le double sens de l'imagination comme l'imagination, elle peut se faire entendement hein, chez Hume. Et en même temps, c'est aussi, elle peut donner lieu à de la fantaisie. Mais vraiment, je saurais pas. Il faudrait que j'y réfléchisse plus posément.
Merci, merci. Peut-être Aurélien, si tu as une question, ou quelqu'un d'autre dans la salle.
Alors moi, j'ai moins une question aussi qu'une demande un peu express, parce que c'est un peu par curiosité, parce que j'ai pas vraiment les armes pour poser de questions, je pense, assez pertinentes sur Hume. Mais en revanche, ça m'aurait intéressé d'avoir... Que tu puisses peut-être un peu rappeler rapidement, par contre, ce que Sartre dit de Rousseau et peut-être aussi la primeur de ta réflexion sur ce qu'il en dit, justement.
Merci. J'ai pas encore développé bien le point, mais en fait, donc la critique de Rousseau, elle est pas dans l'imaginaire, elle est dans l'être et le néant. Dans un chapitre qui s'intitule La transcendance, d'ailleurs, donc... on a le même problème. Et en fait, il me semble que Sartre critique Rousseau dans Les rêveries du promeneur solitaire, parce que dans Les rêveries, Rousseau par un retour en fait à une sensation pure, justement, parce qu'il est dans la vieillesse, l'extinction des facultés, seul au monde. Il y a un repli sur lui-même et donc ce qui renvoie chez lui à l'amour de soi, qui en fait lui permet de saisir l'ordre du monde, de comprendre l'ordre du monde. Donc à partir d'une sensation, en fait, il est capable, sans aucune médiation, sans aucune autre faculté, de saisir voilà, l'ordre du monde. Et Sartre reproche à Rousseau une fusion entre la conscience et l'en soi, entre le pour soi et l'en soi, et il considère que justement il faut, enfin, considérer qu'il y aurait une fusion, mais ce n'est pas ce que dit Rousseau. Hein. Par ailleurs, il ne dit pas qu'il y a une fusion entre la conscience et le monde, hein. Il dit juste qu'on saisit le monde par la sensation. Mais l'idée, ça serait que, en fait, Rousseau ferait du pour soi une chose. Voilà. Et que, du coup, il faut pas mettre sur le même plan la conscience et le monde, et que, justement, il y a la transcendance du monde à la conscience. Donc, ça renvoie à des problèmes analogues, hein, en fait.
Ah oui, d'accord. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes ont des remarques, des questions?
Je voulais juste revenir sur ce que disait Alexis à l'instant sur la difficulté phénoménologiquement à saisir. L'impression d'avoir des perceptions et ou même dans la. Aussi faire une distinction entre les impressions qu'on semble avoir et les pensées qu'on semble avoir. Et je partage, on va dire, le scepticisme à l'égard de cette phénoménologie-là, enfin de la capacité de la phénoménologie à produire des distinctions éclairantes là-dessus. Dans la mesure où je pense que la phéno se construit contre la psychologie, et s'il y a bien quelque chose qui a fait des progrès en un siècle, hein, c'est quand même l'analyse de la cognition humaine, et que pour la question du rêve, par exemple, je pense à ça parce que ça traverse toute l'histoire de la philosophie, le rêve. Donc, c'est un phénomène qui depuis très longtemps, mais on a quand même beaucoup progressé dans la compréhension des rêves, ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Donc je pense que réfléchir sur ces choses-là, sans se donner les moyens de regarder ce que nous apprennent les sciences cognitives ou les analyses très précises de la cognition, les travaux de psychologistes, de neurologues sur ce qu'est le sommeil paradoxal, et la manière dont l'activité cérébrale très particulière, très schématique, qui est très axée sur l'action, etc. Et comment c'est un... Le rêve n'est pas que une spécificité humaine, mais les animaux rêvent et la durée du rêve est proportionnelle à la masse des animaux. Un éléphant rêve plus qu'un chien. Et seuls les animaux à sang chaud rêvent moins. Bon, je m'éloigne, mais tout ça pour dire que ces questions-là sont vraiment fascinantes. Et elle pose la question des limites des rapports que la philosophie, quand elle se fait phénoménologie, doit et peut entretenir avec les savoirs positifs. Bon, mais ça ne nous fait pas avancer beaucoup plus. Voilà, je vous rassure.
Merci pour cette remarque. Voilà, tu voulais ajouter quelque chose, Nicolas?
Non, si ce n'est remercier pour vraiment la qualité de cette intervention qui éclaire bien des choses sur Hume et sur Sartre. Donc, je suis vraiment content d'avoir pu y assister.
Merci.
Ben, écoutez, s'il y a pas d'autres questions, on va s'en tenir là. Je te remercie. Merci beaucoup, Loris, pour son exposé. Évidemment, c'est en plus c'est des rapprochements qui me semblent assez féconds parce que je connais pas encore d'analyse à ce niveau-là sur ces auteurs-là. Donc je trouve je suis assez impatient de voir aussi ce que ça donnera dans ta thèse. Et donc je remercie tout le monde pour l'écoute et la participation. Je rappelle juste avant de quitter que il y aura bien donc une séance la prochaine fois le 29 mars. Semblablement, je pense que ça sera, enfin similairement, ça sera encore sur BBB, voilà, à distance. Après, on verra en avril si on peut revenir en potentiel. Voilà, mais de toute façon, on rappellera tous les étudiants de la séance prochaine. Voilà, donc merci encore à nos discutants et à Iris.
Merci à vous.
You are now unmuted.
Merci.
Merci à Nicolas et Iris. Merci. Bonne soirée à tout le monde.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Bonne soirée.